Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait toujours très plaisir de vous revoir. Ça fait aussi très plaisir de revenir vivre un culte avec vous tous ici. C'est précieux pour nous, ça reste un lieu qui nous est cher. Et puis c'est une joie aussi de venir en famille ce matin. Ça fait plaisir. Et en même temps, je me suis retrouvé cette semaine face à ce grand dilemme, face à cette grande difficulté. Qu'est-ce qu'on vient raconter après le décès tragique de quelqu'un qui nous était cher à tous? Qu'est-ce qu'on peut bien venir dire? Alors c'était un grand sujet de prière pour moi cette semaine, et ça continue à l'être. Que les mots que je puisse prononcer puissent être des mots qui viennent de Dieu, des mots qui puissent amener le réconfort, qui puissent aller dans la ligne de ce que Lynn et Christelle ont pu dire ce matin. On s'accroche à cette fidélité de Dieu, on s'accroche à ces promesses de Dieu, parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de meilleur et qu'on doit réussir à se les approprier. Et puis en même temps, eh bien, on vit notre vie chrétienne dans cette tension-là, et on la retrouve dans la Bible, hein, cette tension entre, d'un côté, la beauté de notre espérance, la beauté de ce qu'on vit avec Dieu, de ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec Dieu, et la beauté de ce qu'on vivra auprès de Dieu, et puis en même temps, notre vie bien terrestre, avec les joies, les défis, et les tristesses. Et puis ce matin, on l'a entendu, hein, on est tel qu'on est. Et je pense que c'est une grande force de pouvoir arriver à l'église le dimanche matin, pas juste en mettant de côté ce qu'on vit habituellement, ce qu'on vit toute la semaine, mais en venant habiter de nos émotions, de nos joies, de nos craintes, de nos doutes, de nos tristesses, on vient avec tout ça. Et c'est avec tout ça qu'on vient rendre un culte à Dieu. Et puis je pense que souvent, on sous-estime dans la Bible cet état d'esprit qu'ont les gens, les personnages qu'on voit dans la Bible. On ne se rend pas bien compte, mais qu'est-ce qu'ils vivaient? Comment est-ce qu'ils arrivaient quand Dieu vient à leur rencontre? Qu'est-ce qui les habitait? Et souvent, on n'a pas d'infos très claires. Et je pense en particulier, on va s'arrêter ce matin, on va s'intéresser à Nathanaël, un des premiers disciples que Jésus va appeler. On a peu d'infos sur qu'est-ce qu'il vivait, comment est-ce qu'il se passait. Par contre, on a quelques éléments qui nous permettent d'imaginer. Dans la série The Chosen, qui retrace la vie de Jésus, au moment de l'appel de Nathanaël, on voit un homme qui a envie de plus de Dieu, qui était frustré par sa situation actuelle. On va voir un Pierre qui est désespéré, qui a terriblement besoin d'être secouru. On va voir un André, le frère de Pierre, qui est juste un suiveur, le suiveur de son frère. On voit, ils ont choisi de montrer quelque chose, de quel état d'esprit ils étaient quand Jésus vient à leur rencontre. Et je trouve ça fort. Dans quel état d'esprit on peut être quand Jésus vient à notre rencontre? Je vous propose de lire ensemble le texte qu'on va regarder ce matin. Ce sera en particulier Jean 1, verset 48, mais on va lire des versets 43 à 51. Dans le contexte, on est tout au début de l'évangile de Jean. On voit le baptême de Jésus. Et puis juste après, l'appel d'André et Pierre, et puis c'est à ce moment-là qu'on est. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'où venaient André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi, et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe répliqua, « Viens et tu verras. » Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet, « Voici un véritable Israélite. Il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demanda, « Comment me connais-tu ?» Jésus répondit, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Ainsi, tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier ? Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta, « Oui, je vous déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Alors je l'ai dit, hein, Jésus est au tout début de son ministère. On a un peu une difficulté pour comprendre vraiment dans quel ordre ces différents événements se sont produits au début du ministère de Jésus, parce qu'on a un peu des différences entre les évangiles, en particulier entre l'évangile de Jean et les trois autres évangiles. On sait, Jean n'est pas forcément le plus chronologique des évangélistes. Il se permet des libertés pour transmettre son message. Ce qu'on peut voir, c'est que Jésus s'est fait baptiser et qu'il était reconnu comme Christ, comme le Messie, comme Fils de Dieu par Jean. Et ça a marqué des gens, hein. Ça a marqué des gens qui ont envie d'en savoir plus. Et c'est le cas de Philippe, à qui Jésus va proposer, dire « Mais viens, suis-moi, je dois marcher un bout. Je dois aller de Judée, donc au milieu d'Israël, jusqu'au nord, en Galilée. Viens avec moi. » Ce qui est d'ailleurs étonnant, hein, soit dit en passant, parce que Jésus fait un drôle de choix. Ce serait beaucoup plus logique d'aller vers la Judée, vers Jérusalem, pour commencer son ministère. Si tu veux marquer les gens à ce moment-là, c'est à Jérusalem que ça se passe. Jésus fait le choix inverse. Il va en Galilée. Je pense que ça dit quelque chose sur comment Jésus fonctionne, sur qui est-ce qu'il veut rejoindre. Et c'est donc probablement sur ce chemin, hein, que Philippe va retrouver Nathanaël. Nathanaël, cet homme dont on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il vient de Cana, en Galilée, tout près de Nazareth. Il est cité dans la Bible sous ce nom, donc sous le nom de Nathanaël uniquement dans Jean, dans cette histoire-là, et puis en Jean 21, quand il est cité parmi les apôtres. Ça nous fait dire que probablement qu'il faisait partie des apôtres sous le nom de Barthélemy dans les autres évangiles, parce qu'il est cité à ce moment-là, Barthélemy, en lien avec Philippe. La situation de Nathanaël, qui il était, ce qu'il vivait, ça nous est complètement inconnu. Son état d'esprit, ses relations, visiblement il connaissait Philippe. Le reste, on ne sait pas. Mais sa rencontre avec Jésus, elle va bouleverser sa vie. Il suffit d'un regard, d'une parole forte de Jésus pour tout transformer. Passer d'un « est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ?» à « tu es le roi d'Israël, le Fils de Dieu. » Le changement, il est énorme. Comment ça se fait qu'un regard de Jésus, qu'une parole de Jésus puisse à ce point transformer, bouleverser ? Je vais particulièrement m'intéresser à cette expression « je t'ai vu sous le figuier ».« Je t'ai vu sous le figuier ». Il y a deux mots essentiels, hein, dans cette expression. Il y a ce verbe « voir ». Évidemment, on le connaît tous. Ce qu'on connaît moins, c'est que dans la tradition hébraïque, c'est un mot qui va être plus fort, qui va signifier « connaître », »,« faire l'expérience de quelque chose ». Qui est tout un coup beaucoup plus fort. Hein. « Je t'ai vu » pourrait devenir « je te connais ». Et puis, si on pense à l'importance de la relation chez les Juifs, eh bien, on peut même comprendre ce terme comme « penser à »,« prendre soin de », »,« s'occuper de ». Tout d'un coup, la portée de cette parole, ça prend du poids. Ce « je t'ai vu » peut signifier « je te connais, je pense à toi, je prends soin de toi ». Et ça nous dit déjà quelque chose de ce regard de Jésus. C'est le regard puissant de Dieu sur notre humanité qui transforme, qui transperce. C'est le regard de compassion de Jésus qui est ému, souvent en voyant la foule. C'est le regard de compassion qui voit la souffrance et qui rejoint. Je pense notamment à l'histoire d'Agar dans l'Ancien Testament, cette femme qui a été chassée, qui se retrouve toute seule, au désespoir, et que Dieu va rejoindre, et elle va dire « Tu es le Dieu qui me voit, Elroï ». C'est le regard qui transperce les cœurs, qui ne s'intéresse pas juste à l'apparence, mais aux vérités intérieures, qui va voir la foi au-delà des apparences, qui va se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Ce regard terrible quand on a quelque chose à se reprocher, je pense à Adam et Ève, qui cherchaient à se cacher, qui ne voyaient pas que Dieu les voit. Mais ce regard libérateur pour tellement de monde. Et c'est ce qu'on voit là. Et puis il y a le figuier. Le figuier, cet arbre qu'on ne connaît pas beaucoup par chez nous, mais qui est tellement courant en Israël. Et dans la Bible, il apparaît très souvent, très souvent. Souvent accompagné par la vigne et l'olivier, un peu ces trois arbres qui sont tellement fréquents en Israël et qui on voit apparaître beaucoup dans la Bible. Qui étaient évidemment beaucoup consommés, on consommait beaucoup ces fruits-là, en particulier les figues. C'était des fruits très abondants, très appréciés, parce qu'il y en avait beaucoup. Et du coup, cet arbre, le figuier, est beaucoup utilisé dans la Bible, et très souvent de manière symbolique. On va d'abord signifier la prospérité, la sécurité, ben oui, il y en a beaucoup, on est bon, mais aussi une certaine tranquillité, un certain calme, parce qu'il y en a partout, parce qu'on est en paix, on peut profiter de ces figues. On le voit par exemple, c'est la prospérité du règne de Salomon, tout va bien, on est en paix, on est riche, c'est la bénédiction de Dieu. Ou au Michée 4.4, ils habiteront chacun sous sa vigne, sous son figuier, il n'y aura personne pour les troubler. C'est le symbole de tout va bien. On est au bénéfice des bénédictions de Dieu. Mais ça va devenir aussi le symbole de jugement, de stérilité spirituelle, quand le figuier n'est pas en santé, quand le figuier ne donne pas de fruits. Jérémie 8.13, Dieu déclare, je vais en finir avec eux. Il n'y a plus de raisins sur la vigne, plus de figues sur le figuier, et le feuillage est flétri. Il y a cette attente que le figuier donne des fruits, quand il n'en donne pas, c'est le symbole d'un jugement, c'est le symbole que quelque chose ne va pas chez les Israélites, dans les cœurs. C'est aussi le symbole des bons fruits. Ces figues qui sont abondantes, mais qui donnent aussi, qui ont des bonnes vertus. En particulier, on parle de guérison, Ézéchias a été guéri, le roi Ézéchias a été guéri quand on lui a imposé un cataplasme de figues. Ça paraît très bizarre de dire ça comme ça. Pensez-y la prochaine fois que vous serez malade. C'était ce que Dieu avait dit à Ésaïe pour qu'Ézéchias soit guéri. Mais aussi une image de restauration. Zachée s'est caché dans un figuier. C'est l'image de la restauration, l'image de la guérison. Le figuier, c'est aussi l'image d'Israël. Quand on est sous un figuier, on est en train de méditer la Torah, la loi. Israël est comparé au figuier à la vigne parce que c'est un peuple qui est fécond, qui est prospère, qui est au bénéfice de la bénédiction divine. Et au contraire de ça, quand il rejette Dieu, eh bien c'est un arbre qui va se faner, qui ne va plus porter de fruits, qui va d'ailleurs même être maudit si on pense aux paroles de Jésus ou si on pense à la déportation. Cet arbre, il est riche de signification. Donc quand Jésus dit « Je t'ai vu sous le figuier », il dit bien plus que « Je t'ai vu quelque part sous un arbre ou dans la forêt ». il dit quelque chose de profond. Et ce matin, j'aimerais vous proposer trois lectures du coup de cette expression « Je t'ai vu sous le figuier » parce que je crois que ce qu'il a pu dire à Nathanaël « Je t'ai vu sous le figuier » eh bien, il veut nous le dire à nous tous aujourd'hui. Ces trois lectures ne devraient pas s'opposer, hein, mais se compléter pour comprendre mieux la richesse de tout ça. La première lecture, c'est une lecture littérale. C'est la plus évidente, hein. C'est la première à laquelle on pense. On peut imaginer un Nathanaël prendre un temps de repos sur cette route, qu'il faisait peut-être dans le sens inverse de Jésus, peut-être, de Galilée jusqu'en Judée, peut-être, on ne sait pas. Il prend un temps de repos, seul, loin de tout le monde. Le figuier, c'est alors là le symbole, enfin, ce n'est pas un symbole justement, c'est un lieu physique, c'est un lieu précis, qui symbolise peut-être la tranquillité, le repos. Et ce à quoi on assiste à ce moment-là, c'est un miracle impressionnant. Comment Jésus pouvait-il savoir que Nathanaël était sous ce figuier à faire la sieste? On peut se dire, mais Nathanaël qui se dit, mais j'ai bien vérifié, il n'y avait personne. J'étais tranquille. Et ça fait ressortir d'autant plus fort hein, cette parole de Jésus qu'on a aussi dans ce texte. Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. Ce compliment, on peut imaginer une simple flatterie pour se le mettre dans la poche. Mais si Jésus arrive à situer où était Nathanaël précisément, eh bien on peut tout porte à croire qu'il peut connaître Nathanaël suffisamment pour dire « Je sais que tu es quelqu'un de bien. » En d'autres termes, c'est l'omniscience de Jésus, hein, c'est sa toute-puissance là qui convainc Nathanaël. On est face à un miracle qui est très fort, où il transmet à Nathanaël « Je te connais. » Je t'ai vu, je suis avec toi. En tout temps, je sais où tu es. Je ne te perds pas de vue. Quelle belle parole. Je ne te perds pas de vue, je te connais. Je prends soin de toi. C'est la lecture immédiate, la plus évidente, et je pense qu'on ne devrait pas l'effacer parce que c'est une lecture littérale. La deuxième lecture que j'aimerais faire, c'est la lecture psychologique. Ça s'intéresse plutôt à mais pourquoi est-ce que Nathanaël s'était isolé sous un figuier? Pourquoi? Est-ce qu'il cherchait à fuir quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il s'est isolé? Est-ce qu'il avait besoin de faire le point, de faire le bilan de sa vie? Quand on pense au symbole de calme, de tranquillité, on peut imaginer qu'il avait un grand besoin de se mettre à l'écart, pour être au calme. On peut aussi imaginer que Nathanaël, c'était quelqu'un qui avait une confiance en lui-même assez faible. Je pense là à son commentaire, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Alors avec cette phrase, on ne sait pas beaucoup pourquoi hein, il le dit, qu'est-ce qu'il voulait dire, peut-être qu'il fait allusion à une rivalité entre les deux villages, hein, Cana et Nazareth. Est-ce qu'il fait allusion à l'idée que ce qui est important, c'est Jérusalem, c'est pas Nazareth. Mais si c'est ça qu'il pense. Il fait la distinction entre la Judée, la région importante, puis la Galilée, cette région reculée, peuplée de gens peu instruits, de gens au tempérament fort. Hein. Je pense à l'histoire dans Luc 4 où les gens de Nazareth vont chercher à jeter Jésus dans un ravin. S'il fait référence à ça, Nathanaël, il est en train de dire, nous, on vient d'une région reculée, peu importante. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez nous? Jésus, Dieu ne s'intéresse pas à nous. On n'est pas assez important pour ça. On est inférieur quelque part. Et puis on peut aussi penser à le figuier, l'image d'Israël, l'image de l'héritage, de ce avec quoi on grandit, peut-être à ce à quoi on devrait ressembler pour correspondre à tout ce qui est posé sur nous parfois, qui vient de loin avant nous, avec toute la force des héritages qu'on reçoit, mais aussi toute la charge qui peut être posée sur nous. Tout ça, ça me fait penser à une sorte de crise du milieu de la vie. Je dis ça peut-être parce que j'approche de la quarantaine, je ne sais pas. C'est possible, hein, ces moments de grande remise en question, une période de fragilité. Et tout ça, ça donne du sens aux paroles de Jésus. L'affirmation « voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui » sonne tout d'un coup comme une validation identitaire. Oui, tu es bel et bien un véritable juif qui aime Dieu, qui cherche à l'honorer, à vivre en adéquation avec la Torah. Oui, ton comportement est juste et beau. C'est admirable. Je l'ai vu. Et Jésus va confirmer ça plus tard au verset 51 en faisant une allusion à Jacob. Hein, quand il parle, tu verras le ciel s'ouvrir, les anges qui montent et qui descendent, ça fait allusion à la vision de Jacob. C'est comme s'il disait à Nathanaël, alors que Jacob, appelé aussi Israël, était un trompeur, un manipulateur, et qu'il est quand même le père de la nation d'Israël, toi, Nathanaël, tu es un vrai Israélite comme j'aimerais l'y voir. Tu es en fait meilleur que ton père. Tu rachètes ton passé. L'affirmation « je t'ai vu sous le figuier » devient une affirmation relationnelle, identitaire forte. Oui, je prends soin de toi, même dans ce temps de remise en question. Oui, je suis avec toi. Dans tes temps de fragilité, je suis avec toi. Quelque chose dont Nathanaël a tellement besoin dans ces temps de doute. Oui, je m'occupe de toi. Oui, je te connais. Je sais où tu es. Je suis avec toi. C'était le cas pour Zachée, hein, j'en ai parlé avant. Quand Jésus va porter son regard vers Zachée dans ce figuier, ça va être le début d'une restauration complète. Je t'ai vu sous le figuier, c'est aussi une restauration complète. Et puis, il y a encore la lecture spirituelle. Hein, rappelons-nous, le figuier est associé à la méditation de la Torah, aux bénédictions de Dieu envers son peuple, ou au contraire, au jugement et à la stérilité spirituelle. En utilisant cette expression « sous le figuier », Jésus sous-entend que Nathanaël méditait la Torah. En indiquant un figuier et pas un autre arbre, Jésus indique quelque chose de la bénédiction divine. Nathanaël est placé là dans la tradition juive, dans le courant qui recherche Dieu. Dans le courant qui est invité à suivre les commandements de Dieu, sans quoi le jugement interviendra. Ça nous dit beaucoup de choses de cet homme qui va devenir un disciple. Il nous est présenté ici comme quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu, comme quelqu'un qui cherche la relation avec Dieu, qui a envie de vivre plus de choses dans sa relation avec Dieu, qui veut connaître davantage son Créateur. Mais cette image pourrait aussi nous rappeler qu'être sous le figuier, faire partie du peuple juif, ne suffit pas. Les mauvais exemples, ils étaient nombreux à l'époque. Dans le passé, ceux qui avaient amené à l'idolâtrie, au rejet de Dieu, jusqu'à la déportation, et puis à l'époque de Nathanaël, il suffit de penser à tous ceux qui ont rejeté ou qui vont rejeter Christ, et aux paroles tellement fortes de Jésus face aux pharisiens, par exemple. Être sous le figuier, appartenir à ce peuple ne suffisait pas. Avec Nathanaël, c'est différent. Et c'est Jésus lui-même qui va le dire, hein, avec cette phrase forte, « voici un véritable Israélite en qui il n'y a aucune fraude, aucune faute. » En comparant Nathanaël à Jacob le trompeur, Jésus affirme quelque chose de très beau, de très profond chez Nathanaël. Et ça pose la question, c'est quoi un vrai juif dans la bouche de Jésus? Avec cette expression, il y a la notion génétique, ethnique, l'appartenance au peuple, être un descendant d'Abraham. Et c'est comme ça que c'était compris à l'époque. Être un Israélite, c'était être un descendant d'Abraham. Jésus va aller plus loin dans cette compréhension. Un véritable Israélite, c'est oui un descendant d'Abraham, mais par la foi. C'est Paul qui le dit très clairement dans Romains 2 au verset 28-29. Le vrai juif n'est pas celui qu'il est en apparence et qui est circoncis de façon visible dans sa chair. Le vrai juif, c'est celui qu'il est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange non des humains, mais de Dieu. Et Nathanaël, là, reçoit sa louange de Jésus, de manière surnaturelle, puisqu'il ne s'était pas encore rencontré. Nathanaël reçoit sa louange de Jésus et pas des hommes. Quand Jésus dit « Je t'ai vu sous le figuier », il dit « qu'est-ce qu'il y a sous le figuier ?» Les bons fruits du figuier. Qu'est-ce qu'on attend de voir sous le figuier ? Les bons fruits. En disant ça à Nathanaël, il lui dit « Je te vois comme un bon fruit. Tu viens de toute cette tradition qui cherche Dieu, qui devrait chercher Dieu. Et toi, tu es un bon fruit. » Il dit à Nathanaël, enfin il accueille Nathanaël comme un bon fruit issu d'Israël. Et ça, c'est une affirmation forte qui va plus loin de dire juste « Ah ben, t'as fait une bonne sieste sous cet arbre. » Puis Jésus va plus loin encore en disant « Tu verras de plus grandes choses que ça. » Au verset 50, quand il dit « Tu crois parce que je t'ai dit ça, mais tu verras des choses encore plus grandes. » Quelle promesse, quelle espérance. C'est juste magnifique. Et puis Jésus, là, pour la première fois, ou presque, va affirmer, il va se passer quelque chose qui va ouvrir les cieux, qui va ouvrir la possibilité d'une relation directe entre le Père et les hommes. Quand au verset 51, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, alors oui, c'est une référence à la vision de Jacob, mais c'est aussi dire... Ce ciel va être ouvert. Cette possibilité d'être en relation directe avec Dieu, elle est possible. Et si on voit Nathanaël comme un homme qui avait à cœur d'aller plus loin dans sa relation avec Dieu, Jésus lui dit, oui, ça va être possible. Oui, c'est possible. Oui, tu vas le vivre. Et c'est une annonce du ministère de Jésus qui est juste magnifique. Trois lectures donc, de cette phrase « Je t'ai vu sous le figuier ». Une lecture physique, littérale, qui indique sur le miracle, la toute-puissance, l'omniscience de Jésus, qui dit « Je sais où tu es, je te connais, je te vois ». Une lecture psychologique qui dit « Je prends soin de toi dans tes moments difficiles ». Une lecture spirituelle qui dit « Je connais ton cœur ». Je sais combien tu as à cœur de vivre avec moi. Combien tu as à cœur d'aller plus loin dans ta vie avec Dieu. Et je veux honorer ça. Je reviens à ce que je disais au tout début. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es ce matin? Dans quel état d'esprit tu es ce matin? Si Jésus a dit à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. Il veut nous le dire ce matin. À chacun de nous, je t'ai vu sous le figuier. Qu'est-ce que tu attends de Dieu aujourd'hui? Peut-être tu as besoin que Jésus te rappelle qu'il est avec toi en tout temps, qu'il s'occupe de toi, qu'il prend soin de toi, qu'il est toujours avec toi, qu'il n'est pas limité par quoi que ce soit. Alors Jésus veut te dire, je te vois, là où tu es. Peut-être que tu vis une période de grande remise en question, de fragilité, de vulnérabilité, peut-être même de questionnement identitaire, en te disant, je t'ai vu sous le figuier, Jésus aimerait te dire, je vois ton cœur, je sais qui tu es. Je te connais, je connais ta valeur. Tu es quelqu'un de bien, je prends soin de toi. Peut-être que tu es un peu frustré, de l'écart que tu reconnais dans ta vie
avec ce que tu aimerais vivre, de l'écart que tu vois dans la vie d'église et ce que tu aimerais vivre, l'écart que tu vois dans la société ou que tu vois autour de toi et ce que tu aurais à cœur de vivre. Montre ce que tu désires vivre avec Dieu et la réalité actuelle. En te disant, je t'ai vu sous le figuier, Jésus affirme qu'il connaît ton cœur, il connaît ton désir d'honorer Dieu, ton désir de vivre de grandes choses, de voir de grandes choses s'accomplir. J'aimerais vous inviter à prier. Eh bien, Seigneur, je veux te remercier pour ce regard puissant, ce regard fort que tu portes, que tu as porté sur Nathanaël, que tu as porté sur tellement de personnes dont on a les histoires dans la Bible. Et je veux te remercier pour le regard que tu portes encore sur chacun de nous. Je te remercie pour ce regard puissant, ce regard de compassion que tu veux porter sur chacun de nous. Je te remercie parce que, en tout temps, à chaque instant, tu nous vois. Tu sais où nous sommes. Tu n'es pas dépassé et tu veux nous rejoindre. Je te remercie pour cette parole forte. Je te vois là où tu es. Quoi que tu vives, quoi que tu fasses, je te vois. Je te remercie pour cette parole forte qui dit « Je veux prendre soin de toi, je m'occupe de toi. Tu es quelqu'un de bien, je m'occupe de toi. » Je te remercie pour cette parole forte qui dit « je connais ton cœur qui désire m'honorer. Et tu vivras de grandes choses, tu verras de grandes choses. » Je te demande de rejoindre chacun, chacune, dans les besoins que chacun peut vivre maintenant. Je te demande que ce regard puisse avoir un impact dans les vies, dans nos vies, comme il a pu avoir un impact dans la vie de Nathanaël. Cette transformation qu'a pu vivre Nathanaël, je te demande qu'on puisse la vivre aussi. Chacun selon ses besoins. Tu sais combien on a besoin de ton regard d'amour, ton regard de valorisation, d'encouragement. Ton regard qui nous rejoint. Au nom de Jésus. Amen.